I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors là, on arrive dans le cœur de ma thèse. Ma thèse, c'est que aujourd'hui, si on se laisse faire, c'est juste si on fait pas d'examen critique, si on réfléchit pas, on vit dans cet environnement où la pornographie est là, où il faut aussi être fonctionnel, c'est une injonction qui vient de la sexologie. Et donc, on est porté à la mécanique. On est porté à la mécanique, il y a une obsession de performance. On a tendance, enfin, si jamais vous visualisez ce qui va se passer, vous avez un partenaire sexuel pour une nuit, ce qui va se passer, c'est que probablement, vous allez suivre un script.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec. Chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. On est donc avec Alexandre Lacroix. Salut Alexandre.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Merci beaucoup de me recevoir, c'est très cool. On s'était rencontrés pour la première fois il y a bientôt 2 ans, à l'occasion de la sortie de ton bouquin « La naissance d'un père ». Je t'avais interviewé dans Histoire de Daron. Je mettrai le lien pour les gens qui veulent savoir dans les notes de cet épisode, si on peut faire ça sur les podcasts, c'est super. Où j'avais découvert en fait ton écriture et hyper séduit par ce livre qui est très biographique, pour le coup autobiographique. Mm-hmm. Tu racontes la naissance de toi en tant que père. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que tu décides de te lancer sur le sujet de l'amour et du sexe. Après ça, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, à ce moment-là, juste avant, putain, en fait, je fais comme si de rien n'était, mais tu es, je te présente même pas, en fait, je fais comme si les gens te connaissaient, bien sûr. T'es directeur de la rédaction du Philosophie Magazine.
Oui.
T'es philosophe.
Oui, depuis la naissance du journal en 2006. Alors, ce qui m'a amené au sujet de la sexualité, d'abord, il y a un peu un retour à la source, puisque j'avais écrit un roman autobiographique, effectivement, sur l'expérience de la paternité. J'ai 5 enfants et ça m'intéressait de raconter les grossesses, les accouchements, le bas âge à la première personne du singulier en tant qu'homme. Et là, je remonte d'un cran, les enfants ne naissent pas de rien, il n'y a pas de fumée sans feu, donc je m'intéresse à la question de la sexualité. Plus sérieusement, ce qui m'intéresse, ou le moteur d'écriture pour moi, qu'il s'agisse d'ailleurs d'écrire des romans ou des essais, c'est toujours la vie, je dirais presque la vie quotidienne, ce qui m'obsède, ce qui m'occupe. Donc je ne pars pas de questionnement théorique ou académique ou universitaire. Je pars vraiment de ce qui est là, ce qu'on a sous le nez en fait, mais ce sur quoi aussi il est difficile de mettre des mots, parce que étrangement ces expériences fondamentales, par exemple le rapport qu'on a à la sexualité ou le rapport qu'on a à la filiation, sont aussi des expériences qui ont quelque chose de redoutable, en tout cas qui mettent nos outils d'analyse et de réflexion un peu en déroute. Et donc il est intéressant d'écrire là-dessus, d'explorer.
Redoutable en quel sens ?
Mais parce que en fait c'est comme si on était habitué à tenir des conversations soit superficielles, soit sur des films qu'on a vus, soit sur les actualités, sur des thèmes étrangers à nous. Et de même, dans la littérature, on a l'impression que la littérature regarde le passé de la littérature. Dans le passé de la littérature, il n'y a pas d'écrivain qui s'intéresse à leur expérience de la paternité, aux grossesses de leur compagne. Dans le passé de la philosophie, il y a très peu de traités sur l'union sexuelle ou le plaisir sexuel. Et donc, ce qui est le plus évident est en même temps le plus lointain. C'est un paradoxe. Les questions les plus présentes ou les plus omnubilantes, les plus obsessionnelles pour nous, les plus importantes, sont aussi celles sur lesquelles on est le plus démuni quand on veut les regarder en face.
Et à ton avis, il vient d'où ce... Parce que bon, on peut parler de tabou pour le sexe, même si la parole s'est pas mal libérée, que bah, la preuve avec ce bouquin, quoi. Il vient d'où pour toi ?
C'est-à-dire que il y a un discours et des représentations de la sexualité qui sont omniprésentes. Les représentations dominantes de la sexualité sont les représentations pornographiques. Il faut quand même là noter que c'est pas moi qui parle d'une chose un peu étrange, même si c'est clandestin, c'est un fait social massif. Les sites porno du type Pornhub sont, en France, Pornhub est le troisième site après Google et YouTube. C'est comme ça dans tous les pays du monde. C'est pas un trait culturel français. C'est comme ça, y compris dans les pays où l'accès à la pornographie est illégal, comme dans une partie du monde arabo-musulman. Donc, à l'échelle planétaire, la représentation dominante de la sexualité, c'est la pornographie. La pornographie, elle est consommée par des hommes et par des femmes. Environ 30%, d'après les statistiques de Pornhub, des visiteurs sont des femmes. Elle est néanmoins consommée de façon solitaire et un peu honteuse. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas tellement de discours. C'est prégnant dans nos imaginaires et dans notre représentation de ce que c'est que la sexualité, mais on n'en parle pas trop. Et l'autre type de représentation de la sexualité auquel on a accès, c'est ce que propose la sexologie. Et donc là, c'est une approche qui est médicale et qui est à la recherche du rapport fonctionnel ou d'identifier le rapport dysfonctionnel ou le rapport fonctionnel, ce qui est sain ou ce qui serait pervers. On dirait plutôt aujourd'hui dysfonctionnel que pervers. C'est un mot qui a été un peu abandonné dans la littérature sexologique. Mais néanmoins, on voit bien que ni l'approche, on va dire par la pornographie, ni l'approche par la sexologie ne parviennent à nommer la place qu'a la relation sexuelle dans nos existences.
Ok. Et globalement, tu démarres le bouquin déjà en... Je crois que c'est important de le préciser. C'est que tu démarres le bouquin en disant, en fait, je vais parler de mon point de vue, de mec blanc, hétéro. Et tu prends cette précaution-là d'entrée, en fait.
C'est important parce que, en fait, donc le livre essaye de faire la description philosophique de ce que serait que la relation sexuelle idéale, parfaite. C'est une sorte d'utopie sexuelle ou érotique. Et donc, il y a une trentaine de chapitres qui abordent beaucoup d'éléments. La conversation, le rythme du va-et-vient, les changements de position, les phases d'immobilité, l'orgasme. J'aborde toutes ces questions avec un regard philosophique, l'habitude. Mais je m'inspire évidemment de philosophes qui, parfois, consacrent une page un peu égarée ici et là à la question du sexe, mais également de mes expériences passées. Et donc, le point de vue du mâle hétérosexuel est forcément dominant en tant que... Là, je suis sur un sujet qui n'est pas un sujet seulement théorique et où on parle bien quand on parle d'expérience. Et je précise ça au départ parce qu'il me semble que, bien que ce point de vue soit vraiment situé, une partie de ce que je raconte peut être transposée dans d'autres expériences d'orientation sexuelle ou dans d'autres expériences de genre que les miennes. Seulement, je ne m'immisce pas là-dedans, c'est-à-dire que je laisse aux personnes concernées, aux lectrices par exemple, le fait de faire des transpositions. Est-ce que ce que je dis en tant qu'homme s'applique à leur vécu de la relation sexuelle? De même, dans l'homosexualité ou dans le monde lesbien, certaines des choses que je dis, je sais pas, sur l'orgasme par exemple, ou la distribution figée des rôles, ce sont des choses qui existent, mais je ne m'aventure pas à parler au nom des autres. Voilà. Donc je parle en mon nom. Et j'essaie de dégager des traits, sinon universels, du moins partagés, de ce qu'est la sexualité à partir d'un point de vue hétéro-straight.
D'ailleurs, tu parles bien de faire l'amour. Tu parles certes, tu parles de faire du sexe aussi, donc il y a des aspects un peu techniques, mais il y a un vrai truc en toi, et à travers le bouquin, de faire l'amour, c'est-à-dire de dépasser simplement ce truc de, comment dire, avoir un rapport sexuel ou avoir un coït avec quelqu'un, quoi.
Oui, le choix des mots est important ici. C'est vrai que dans le langage courant, on va dire plutôt baiser ou coucher, peut-être plus vulgaire encore. Les jeunes disent de plus en plus faire le sexe.
Faire le sexe, c'est vrai.
Et les sexologues le disent aussi. Oui, oui, je m'en suis aperçu avec les rencontres autour du livre. Plusieurs sexologues disaient faire le sexe. Alors, pourquoi faire l'amour? Parce que il me semble que c'est un mot qui dit, une expression qui dit que quand on s'engage dans la relation érotique, dans la relation sexuelle, on va être remué dans nos émotions, dans nos sentiments. Alors, je présuppose pas qu'on est amoureux, forcément amoureux, puisque effectivement, on peut très bien faire l'amour et le faire avec beaucoup de plaisir sans être amoureux. Néanmoins, même sans qu'il y ait la qualité d'un lien affectif très spécifique qu'est l'amour entre les êtres qui font l'amour, on est remué, on est troublé par ce qui se passe. D'ailleurs, je dirais qu'on peut être meurtri ou on peut être marqué par des choses qui se passent quand on fait l'amour. C'est pas le cas, je sais pas, si on joue au tennis avec quelqu'un. On peut pas être traumatisé par une partie de tennis qui se passe mal. On peut être traumatisé par un rapport sexuel qui se passe mal. Ça prouve bien que ça n'est pas que le corps qui est engagé, c'est aussi nos équilibres psychiques. Le rapport qu'on a à nous-mêmes, à notre identité, le rapport qu'on a à l'autre. Et tout ça, à mon avis, est capté par l'expression faire l'amour, mais n'est pas dans l'expression baiser ou coucher.
Et tu parles aussi beaucoup de lire. C'est un vrai, vrai truc tout au long du livre. Où pour toi, il y a aussi une forme de lien qui se crée, ce qui va un peu à l'encontre, mais on en reparlera un peu après, de toutes les représentations qu'il peut y avoir de porno notamment, et voire même de l'idée, moi, de ce que j'ai pu entendre de mes amis IES, de la façon dont certains mecs font l'amour ou baisent de façon très mécanique et très scriptée, quoi.
Alors là, on arrive dans le cœur de ma thèse. Oui. Ma thèse, c'est que aujourd'hui, si on se laisse faire, c'est juste si on fait pas d'examen critique, si on réfléchit pas, on vit dans cet environnement où la pornographie est là, où il faut aussi être fonctionnel, c'est une injonction qui vient de la sexologie. Et donc, on est porté à la mécanique. On est porté à la mécanique, il y a une obsession de performance. On a tendance, enfin, si jamais vous visualisez ce qui va se passer, vous avez un partenaire sexuel pour une nuit, ce qui va se passer, c'est que probablement, vous allez suivre un script, qui n'est écrit nulle part mais que nous connaissons tous, où il y a des préliminaires, puis une pénétration avec un rythme de plus en plus rapide, puis éjaculation. Ce script, cette manière d'envisager la relation sexuelle, ça a été mis en place par Freud dans ses 3 essais sur la théorie sexuelle en 1905, et c'est un script qui est extrêmement d'abord il est linéaire, il est très compartimenté. C'est-à-dire que la phase des préliminaires, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la pénétration, c'est seulement au début. Il est mécanique, il y a une injonction à la performance, il y a une normativité, parce que pour Freud, il faut que ce soit l'homme qui éjacule à l'intérieur de la cavité vaginale. Donc ce qu'on mime dans ce script, c'est la procréation. Même quand la finalité est le plaisir, on doit mimer la procréation. Et nous, on a tendance à performer ce script. Ce script, en fait, il a été repris dans toute la littérature sexologique. Il a été dans les débuts du porno, et c'est aussi ce qui était montré à l'écran. Et en fait, c'est ce qu'on va avoir tendance à reproduire. Et évidemment, il y a plein de problèmes dans ce script. Dans ce script, le problème principal, c'est que on néglige le plaisir féminin. Je peux même le dire de manière plus brutale. Un jeune garçon qui fait son éducation sexuelle, mettons entre 11 et 14 ans, à travers des sites porno, voit des vidéos dans lesquelles les femmes n'ont pas de plaisir. C'est quand même un vrai souci. Il voit de surcroît des vidéos dans lesquelles la performance est presque surhumaine. Enfin, imaginez-vous à 11-12 ans, enfin rappelez-vous quand vous aviez 11-12 ans, ces hommes excessivement bien membrés qu'on voit dans les films porno, c'est quand même intimidant. Et puis par la magie du montage, mais ça vous êtes naïf, vous ne le savez pas, ils ne débandent jamais. Donc vous avez l'impression, c'est effectivement d'avoir affaire à des espèces de faune ou de ou de, enfin ils ont quelque chose d'un peu surhumain, et tout ça crée une sorte de terrible pression, en même temps que la partie du plaisir ou du lien, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'affectivité est complètement négligée. En fait, tout ce qu'il y a de beau dans la relation sexuelle est négligé. Moi, l'objectif, en fait, au départ, je me suis dit, voilà, je voudrais écrire un art érotique pour 2022, pour aujourd'hui, et cet art érotique doit relever un défi. Le défi, c'est de proposer une autre représentation de la sexualité que celle du porno, sans faire la morale, sans être bégueule, sans être un censeur, mais juste proposer... Donc, le livre est volontiers, par moments, très cru, ou très direct.
Oui, t'appelles un chat un chat, quoi.
J'appelle un chat un chat, oui, c'est ça, voilà. Mais l'idée, c'est de ne jamais être vulgaire, et surtout de montrer que dans tout ça, dans cette relation sexuelle, il y a de la beauté. Alors, c'est vrai que quand on parle déjà de relation, on est ailleurs que quand on emploie le mot baiser. C'est-à-dire, déjà, on dit, tiens, c'est intéressant. Ce qui se passe aussi, c'est que, en faisant l'amour, on tisse du lien.
Puis une relation, ça va dans les deux sens.
Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que avec notre script, moi j'appelle ça le script Freud porn, celui qui mélange les conseils de Freud et la l'imaginaire porno. Le script Freud porn, c'est un script qui où chacun va être un peu enclos sur sa fonctionnalité ou sa propre performance. Et donc effectivement, à la rigueur, à la fin, on a juste besoin de d'avoir un échange du genre est-ce que tu me mets 5 étoiles, 3 étoiles. Enfin, on le dit pas comme ça. On dit est-ce que t'as joui, est-ce que t'étais bien. Oui, j'étais bien. En fait, c'est hallucinant quand on y songe de devoir demander à l'autre s'il était bien. Ça veut dire qu'on l'a pas senti. C'est complètement fou. En fait, ça veut dire que on n'était pas bien ensemble. On était bien chacun de son côté. Et après, on doit en témoigner auprès de l'autre. Oui, bon, pour moi, c'était comme ça. Ah, c'est bizarre, pour moi, c'était bien. C'est très étrange, en fait. C'est comme si il y avait eu une paroi de verre entre les deux partenaires.
Carrément. Y a un autre truc aussi qui est fou, c'est que... je savais que Freud avait fait beaucoup de mal, d'une manière générale, dans la société actuelle telle qu'on la vit, qu'il avait renforcé plein de conneries que le patriarcat, parce que lui-même sans doute était imbibé de tout ça. Mais là vraiment, tu expliques dedans que lui, il appelle ce qu'on appelle préliminaire, donc tout ce qui ne va pas en dehors de la pénétration, quoi, pour lui, il intitule ça une transgression anatomique.
Mmh. Oui.
Parce que pour lui, ça va pas. Il faut juste que les sexes se aillent l'un dans l'autre, quoi, tout simplement.
Pour lui, il y a un détournement d'organes dans les préliminaires quand, effectivement, en particulier, on utilise la bouche. On transforme la bouche en organe sexuel. Ça va avec sa théorie de la sexualité plus large, où il a séparé les stades, le stade oral et le stade génital. Et le fait de réintroduire la bouche dans le stade génital, c'est quelque chose pour lui qui lui apparaît comme une transgression. Enfin, une transgression par rapport à des canevas ou à une structure de raisonnement qu'il a préconstruite lui-même. Et donc effectivement, il y a une progression pour lui dans la sexualité infantile du stade oral vers le stade génital. Et là, on rebat les cartes. Par ailleurs, il considère que le plaisir qu'on prend à voir l'autre nu, à contempler son corps, le plaisir qu'on peut prendre à je sais pas, aux sous-vêtements, donc le fétichisme, tout ce qui n'est pas la pénétration, ce sont des buts sexuels secondaires. En fait, la notion de préliminaire, c'est lui qui invente le concept de préliminaire. C'est aussi une pierre de touche pour lui qui lui permet de qualifier, de définir les perversions. Pour lui, ce qui est pervers, c'est ce qui c'est la fixation sur les buts sexuels secondaires. En soi, c'est assez surprenant cette idée-là. Donc effectivement, il est pervers. Il n'est pas pervers de pratiquer le cunnilingus ou la fellation à des fins d'allumage de l'excitation. Mais ça devient pervers si on s'attarde. Il dit pas combien de temps, hein. Il fixe pas vraiment le tarif. Mais en fait, effectivement, le but sexuel primaire, c'est l'éjaculation de l'homme à l'intérieur de la femme. L'homosexualité est une perversion dans ce livre. Donc on voit quel cheminement a été fait depuis plus d'un siècle et à quel point on s'est détaché de certaines de ces notions freudiennes. Ce qui est tout de même intéressant, c'est que même si le mot de perversion est, à mon avis, problématique et déclassé, il lui vient pas à l'esprit qu'on pourrait qualifier la perversion par le type de rapport à l'autre, non pas par des buts sexuels secondaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas aussi libre du point de vue des mœurs qu'on l'imagine. Et en tout cas, ce qu'on aurait tendance, nous, à qualifier de perversion, ce serait la pédophilie ou le viol, ou encore peut-être la nécrophilie. Et donc, en fait, des types de sexualité où il n'y a pas de retour de son, où il n'y a pas, disons, ni égalité des partenaires, ni...
En fait, change, quoi, c'est ça.
Où la subjectivité de l'autre, la subjectivité de l'enfant, la subjectivité de la personne qui est violée est niée et brisée. Pour nous, c'est ça qui est choquant. Certainement pas le fait de s'attacher à des buts sexuels secondaires.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu as dit là juste avant que pour toi on est sans doute moins libéré en termes de mœurs que ce qu'on pense, c'est ça?
Bien sûr, y compris moi-même, même si je parle d'une manière assez crue de la sexualité, la question de la pédophilie pour nous est un, par exemple, une barrière très très élevée. Les scènes dans Six grains de beurre ou André Gide, prix Nobel de littérature, se confient longuement sur son tourisme sexuel au Maghreb et sur des relations avec des jeunes arabes qui sont mineurs, sont des scènes qui pour nous sont extrêmement choquantes et dérangeantes. Donc effectivement, on n'est pas, on ne vit pas dans un monde. D'ailleurs, il n'existe pas de civilisation sans éthique sexuelle. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Il y a toujours des zones d'interdit. Ces zones d'interdit, simplement, elles se déplacent avec le temps. Et je dirais que la pierre angulaire de notre interdit, à mon avis, c'est le respect de la subjectivité de l'autre, mais certainement pas cette question des buts secondaires. Il n'y a pas respect de la subjectivité de l'autre quand il y a viol ou quand il y a agression envers un mineur.
Ok. Tu parles, tu décides aussi de renommer les préliminaires?
Oui, alors là, c'est sur un sujet plus léger. J'ai fait une digression, voilà, sur la question des crimes sexuels ou de l'éthique sexuelle. Mais mon livre ne porte pas là-dessus. Mon livre ne porte pas sur les cas problématiques, extrêmes ou illégaux. Il ne s'agit pas de faire une nouvelle liste des crimes et des délits sexuels. Moi, ce qui m'a occupé, au contraire, c'est une sexualité où on a envie l'un de l'autre. Voilà. C'est-à-dire, ce qui, à mon avis, est le cas le plus courant, on a envie l'un de l'autre, mais où on vit en couple et on a, disons, des relations sexuelles régulières, et on a envie d'y prendre du plaisir, on a envie que l'autre y prenne du plaisir, et en fait, ça marche pas toujours. Il peut y avoir de la frustration, un peu de tristesse. On peut estimer que c'est, je sais pas, que c'est soit pas assez fréquent, soit pas assez libre, pas assez beau, ou que l'autre a une manière de faire l'amour qui nous déplaît. Donc moi c'est ça qui m'intéresse. Je me suis intéressé à la sexualité pot-au-feu par opposition aux pratiques un peu extrêmes. C'est vrai que vous avez une littérature énorme sur le sadomasochisme, sur la pornographie, Mais en fait, si vous avez envie de vous intéresser sur votre sexualité de couple, il n'y a pas grand chose parce que c'est un angle aveugle, c'est moins saillant, enfin c'est moins, en un sens c'est moins intéressant, c'est plus quotidien, c'est moins voilà, le psychiatre va pas s'en emparer, le juriste ne va pas s'en emparer, le psy ne va pas vraiment s'en emparer, en fait personne ne s'en empare, mais moi j'ai voulu penser cette chose là et en particulier sur la question des préliminaires, il me semble que le terme nous canasse un peu. En tant que, il dit que les pratiques qui ne sont pas la pénétration doivent être toutes confinées au début. Mmh. Et ma proposition est assez simple, c'est de passer du concept de préliminaire à celui d'intermède. Et donc, de se dire que, à tout moment, en fait, on peut, voilà, pratiquer d'autres caresses, évidemment, que la pénétration. On n'est même pas obligé de revenir à la pénétration. Que je veux dire par préliminaire, parce que ce qui m'a été reproché après, on m'a dit oui, mais alors si ce sont des ce que je veux dire par intermède, parce qu'après ça m'a été reproché, on m'a dit oui, mais alors si tu parles d'intermède, tu veux dire que quand même la pénétration est en quelque sorte le plat de résistance, et
oui,
que ce sont des entremets en fait.
Alors que tu peux très bien faire l'amour en faisant pas de pénétration, quoi.
Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la notion d'intermède, c'est la notion de séquençage aussi. C'est-à-dire l'idée que intermède, ça dit il y a plusieurs scènes, il y a plusieurs moments. On peut même s'interrompre complètement, boire un verre de vin, discuter, reprendre. En fait, par rapport au script Freud porn ou par rapport au schéma dominant, on n'est pas du tout obligé de faire l'amour en continu pendant 10 minutes ou 1 heure. On peut tout à fait s'interrompre, faire autre chose, reprendre. C'est cette liberté-là, en fait, que moi j'avais envie de mettre en avant, que le moment sexuel peut être extrêmement discontinu avec une foule d'intermèdes et avec plusieurs actes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et la notion d'intermède permet ça. Moi, il y a une image aussi que j'aime bien pour expliquer ça, c'est l'image ce serait de dire que si vous êtes dans le schéma dominant, c'est-à-dire ce que j'appelle le script Freud porn, en fait les préliminaires, c'est comme si vous étiez en voiture et que vous visitiez quelques petites routes pittoresques, peut-être quelques petits chemins de campagne, puis vous vous engagez sur l'autoroute de la pénétration jusqu'à destination. Et ça, grosso modo, c'est ce que les gens font principalement. Et Ce que j'aurais tendance à dire, c'est non, vous engagez sur l'autoroute, vous voyez une colline qui vous intéresse, vous ressortez, vous retournez sur l'autoroute, un peu plus loin c'est un village, vous allez les visiter, et peut-être vous ne reviendrez pas sur l'autoroute. Voilà.
C'est beau. Métaphore. Tu parlais aussi tout à l'heure d'avoir une vie sexuelle de couple, un peu, comme tu disais, banale ou un peu classique, où on a l'habitude, etc. Tu parles beaucoup des habitudes. Il y a notamment un truc qui m'a fait rire, c'est que tu parles des... Tu parles de digression provocante, où tu dis ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de remettre l'amour dans une forme de quotidien tellement banal que finalement on peut aussi faire l'amour en parlant de sa liste de courses ou de ce qui s'est passé dans le travail, quoi. J'ai trouvé que ce pas de côté était vraiment marrant, quoi.
Oui, c'est-à-dire que ça, c'est un chapitre sur lequel j'ai eu pas mal de retours. C'est un chapitre sur les conversations pendant l'amour. Et c'est vrai que ces conversations ou ces échanges verbaux, c'est assez... C'est assez sommaire. En fait, souvent, c'est un peu de l'exhortation. Vas-y, ouais, t'es bien. Vas-y, ah, je suis bien. Ouais. Bon, en gros, c'est des trucs de coach sportif. Enfin, ça a pas grand intérêt. Et il y a des gens qui vont beaucoup plus loin et qui s'engagent, qui construisent des histoires. Ah oui, t'imagines, la voisine, elle passe, elle vient, elle nous voit. Alors, tu lui ferais quoi, machin. Bon. Et donc, ce sont des affabulations. Et moi, je me dis finalement. Une des modalités de conversation pendant l'amour qui est amusante, et peut-être en fait la plus créative, c'est de parler de toute autre chose. Et parce que, j'appelle ça la digression provocante, parce que si on parle de toute autre chose, on va parler effectivement de la liste des courses, d'un truc qu'on doit acheter le lendemain, du boulot, enfin vraiment, ou du film qu'on a vu. En fait, on se teste, ou peut-être c'est un moment intéressant aussi où la femme peut tester le désir de l'homme, c'est-à-dire est-ce qu'il va continuer à me désirer même si je l'emmène dans une contrée où vraiment c'est peu sensuel. Et ça, je trouve ça intéressant, ce moment-là, se dire tiens, quand le désir perdure alors qu'on est en train de parler de couches ou de biberon, c'est que le désir est fort. Et donc, je trouve que finalement, il y a presque plus de poésie là-dedans que dans le fait de dire « Ouais, t'es bien, ouais, vas-y, prends-moi, etc. » Ce qui est bon, bah, okay, d'accord. Mais ce qui fait plaisir à entendre sur le moment, mais qui, par exemple, rapportait dans un roman une pièce de théâtre, est juste le degré zéro de la conversation.
T'as tout un point de vue aussi où tu parles de consentement par rapport à, et tu mets en parallèle le consentement et la vision de la liberté de Spinoza. Et pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était vraiment l'un des sujets qui m'a le plus mis de côté, enfin, un vrai pas de côté en fait par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre au discours, etc. Où tu viens expliquer, tu vas sans doute l'expliquer beaucoup mieux que moi, que en fait grâce à Spinoza on peut voir aussi le refus de l'autre, ou en tout cas le fait que l'autre vienne te dire en fait non ça m'intéresse pas, d'une toute autre façon plutôt que de juste le prendre pour soi, quoi.
Alors deux choses là-dessus. D'abord La question du consentement, moi c'est un mot que j'emploie une fois et je dis seulement consentant, l'adjectif, je l'emploie pas trop ce mot de consentement. Je pense que le critère du consentement a été critiqué à juste titre par un certain nombre d'autrices féministes, à juste titre parce que en fait, on a cru à un moment que dans notre société post-libération sexuelle, on allait s'affranchir de toute forme d'éthique sexuelle et on a dit, mais finalement, tout est permis entre adultes consentants. Et donc, on a fait du consentement le critère d'acceptabilité d'une relation sexuelle ou le critère qui le rend inacceptable. Le problème, c'est que on peut consentir à des choses qui nous démolissent complètement. Et puis, l'autre problème, c'est quand on lit Vanessa Springora, on se rend compte que le consentement, en fait, si vous consentez... imaginez, je vais déplacer par rapport au terrain sexuel, mais imaginez que un escroc arrive à séduire complètement une proie et arrive à convaincre cette proie de lui verser 50 000 euros sur son compte, de lui verser toutes ses économies. Ça s'appelle dépouiller complètement quelqu'un. Mmh. La personne a consenti. C'est-à-dire que la personne a fait des chèques, la personne a fait des virements, le consentement est là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas une escroquerie, c'est une escroquerie. Donc en fait, on voit bien qu'on peut consentir à des actions manifestement illégal à des manœuvres. Donc le consentement est faible. En plus, sur le terrain de la séduction, souvent, on a bu quelques verres d'alcool, on est troublé. L'autre peut faire des promesses qui sont fausses, peut promettre qu'on va s'aimer pour toujours alors que il s'en ira le lendemain matin. Et donc, le consentement éclairé et rationnel n'est jamais vraiment garanti. Et donc, ce critère de consentement, il est faible. Et à vrai dire, c'est encore une fois, ce sont des choses que j'explique pas en détail dans le livre. Je voulais pas faire focaliser là-dessus, mais il me semble que le critère de ce que John Stuart Mill, l'utilitariste anglais, appelle le harm principle, c'est-à-dire le critère de non-nuisance, est plus clair. Dans le cas de Vanessa Springora, par exemple, le problème, c'est qu'elle est tombée sur un prédateur, qu'elle est mineure, et que lui, sa démarche, elle serait acceptable aux yeux du consentement, parce qu'il peut toujours arguer du fait que cette jeune fille était consentante, mais elle est inacceptable au point de vue du principe de non-nuisance à autrui. C'est-à-dire que on ne doit jamais faire à autrui quelque chose qui puisse le briser, lui faire du mal, et donc a fortiori, quand on a, je sais pas, 35, 40, 50 ans, séduire une gamine de 13, 14 ans, c'est évidemment prendre le risque de briser son psychisme, c'est lui faire du mal, et donc ce principe de non-nuisance, à mon avis, est plus clair que le principe de consentement. Mais là, je m'éloigne un peu de mes bases et j'ai l'impression que cette critique du consentement, elle a été mieux faite par des autrices féministes. Moi, je parle dans ce chapitre non pas du consentement, mais de la question des refus ou des interdits, c'est-à-dire qu'à un moment, dans une relation sexuelle, l'un veut faire quelque chose et l'autre ne veut pas. Ça peut être la sodomie. Alors la sodomie, c'est le cas d'école du lieu de la négociation. Mais il peut y avoir toutes sortes d'autres choses. D'ailleurs, ça peut être inversé, c'est-à-dire est-ce que l'homme accepte ou pas d'être pénétré par la femme avec ses doigts ? Est-ce qu'il accepte d'être pénétré avec un sextoy ou pas ? Donc, en fait, l'un a envie de quelque chose ou aimerait tenter quelque chose. L'un a envie d'aller dans un club échangiste, l'autre n'a pas envie. Alors, si on l'interprète en termes d'interdit et de refus, il y a quelque chose d'un peu plus punitif et on voit bien que pour le couple, évidemment, quelques refus, ça va. Si les refus se multiplient, ça va créer peut-être chez l'un des deux un sentiment de frustration. Tiens, j'aimerais qu'on fasse plus d'expériences et on en fait moins. Alors, il me semble que c'est là qu'il est intéressant de se rappeler ce que Spinoza, enfin l'approche du désir de Spinoza, c'est-à-dire de se dire que on peut relire les refus en termes de préférence, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est pas ce que les gens refusent, c'est ce qu'ils préfèrent. C'est-à-dire de passer de la négation à l'affirmation, de la dérobade à l'affirmation. Au fond, quelqu'un, à travers ce qu'il accepte et à travers ce qu'il refuse, est en train de dessiner sa propre identité ou sa propre personnalité érotique. Et si vous connaissez les refus ou les limites de l'autre, en fait, c'est que vous êtes en grande intimité avec lui. À la rigueur, c'est peut-être dans les premières phases d'une relation que l'autre n'osera pas vous dire non, parce que il aimerait encore incarner pour vous, si c'est une femme, toutes les maîtresses, si c'est un homme, tous les amants. Donc il va sans doute sortir de son terrain de jeu habituel, et puis au bout d'un moment, il va replacer des préférences, des limites. Mais justement, est-ce qu'il faut les interpréter comme des limites ? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut simplement se dire, tiens, on a atteint un point de connivence et d'intimité où l'autre me dit « ça j'aime pas ». Et en me disant ça, il n'est pas en train de limiter ma liberté, il est en train de m'indiquer comment lui faire plaisir. Voilà, je ne dis pas que j'ai la solution complète situation qui serait asymétrique et où dans un couple, l'un serait en gros assoiffé d'expériences nouvelles et l'autre voudrait simplement le missionnaire. Peut-être que ce couple-là va craquer à un moment. Ah ouais. Mais quand même, c'est important de se dire qu'il y a cette latitude d'action et que connaître les limitations de l'autre, c'est le connaître intimement.
C'est un point de vue intéressant en tout cas qui permet un peu de ne pas revenir sur un plan personnel, quoi, de te dire ok, t'es en train de refuser ça, donc en fait moi ça me coûte, quoi.
Il faut sortir de la négociation. En fait, c'est-à-dire que on a une mentalité qui est trop contractualiste, où on a l'impression que tu me donnes une sodomie et puis après c'est un tue l'amour, enfin je veux dire c'est un tue le désir de devoir tracter, négocier. Et donc effectivement, je crois que sortir de la négociation, c'est ne pas... Parce que dans une négociation, qu'est-ce qui se passe? Chacun veut gagner. Chacun veut avoir le meilleur deal. Et donc, si on est dans une mentalité négociatrice, chacun va essayer en douce de faire passer des positions ou des pratiques qui l'avantagent, peut-être un peu aux dépens de l'autre. Et cette mentalité-là est trop individualiste et ne mène pas, à mon sens, à l'épanouissement érotique.
Encore une fois, c'est, on pourrait trouver un, pour revenir à un langage de business, une relation gagnant-gagnant.
Juste... c'est ça. Oui, oui.
T'as l'impression, toi, d'avoir évolué, parce que t'as 45 ans aujourd'hui, c'est ça?
Non, 46,
46 ans. Toutes mes citations. T'as l'impression, toi, d'avoir évolué. Il y a notamment un moment où tu parles de quand t'as 20 ans, que t'es tout jeune dans le bouquin. T'as une petite anecdote là-dessus. T'as la sensation, toi, en 25 ans, d'avoir grandi, mûri en tant qu'homme par rapport à...
Ah oui, beaucoup. Moi, j'ai commencé par le script Freud Porn, je pense, un peu comme tout le monde. Et petit à petit, avec les lectures et la réflexion, et puis les rencontres, je m'en suis écarté. Et c'est vrai que ce que je dis là sur le schéma freudien, l'influence de la pornographie, je l'ai moi-même subi. Donc effectivement, la sexualité... a évolué. Non, la seule constante, c'est que j'ai toujours accordé beaucoup d'importance au sexe. Enfin, ça m'a toujours paru être un point, non seulement une pratique extraordinaire, mais aussi un point de fantasme, de... voilà, c'est quelque chose... Mais je suis pas unique là-dessus, mais j'y pense souvent. J'aime ça. C'est pour ça que j'ai écrit un essai, Apprendre à faire l'amour, qui est un peu une sorte de déclaration d'amour à la sexualité. Hein. C'est voilà. Seulement, il faut un petit temps. À 46 ans, je suis peut-être un peu comme... Vous savez, ces gens qui sont en pré-retraite, là, qui font leurs meilleures années parce qu'ils sont consultants, vous voyez. C'est-à-dire, voilà, c'est si on parle un langage business, c'est
tu
le moment
que
de dire...
T'es au top de ton expérience et t'es encore au top de ce que physiquement tu peux donner, c'est ça, avant de...
Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai suffisamment d'expérience pour conseiller les jeunes sans être complètement à la masse, voilà.
Okay. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler par rapport à ton bouquin?
Oui, peut-être ce que je propose par rapport au script Freud Porn, c'est vraiment d'envisager l'activité sexuelle comme une activité créative et esthétique. En fait, c'est quand j'ai parlé d'art érotique, c'est vraiment au sens propre. Il me semble qu'il y a une disposition psychologique intéressante quand on approche de l'acte sexuel, c'est de se dire, tiens, je vais me mettre dans le même état d'esprit que si je devais danser avec quelqu'un, ou que si je devais faire de la musique avec quelqu'un, ou du jazz, ou accompagner quelqu'un qui chante au piano. Au fond, c'est un moment créatif, c'est un moment de beauté. Et l'art érotique que je propose à la fin du livre, c'est vraiment cette idée que dans ce moment de beauté, il y a improvisation, on cherche à aller au bout de ses potentialités et on cherche à mieux connaître l'autre. Et aussi, on est vulnérable et fragile. C'est-à-dire que dans les arts vivants, un jour, vous vous produisez sur la scène d'un théâtre, vous êtes enroué, un jour, vous êtes fatigué, et vous composez, en fait, avec toutes sortes d'impondérables de votre vie quotidienne, mais vous essayez quand même, avec tous ces impondérables, la fatigue, le stress du travail, etc., vous essayez quand même de fabriquer une forme de beauté sur le moment. Et puis, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas posséder. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas thésauriser. Il n'y a rien de pire qu'un vieux donjon, parce qu'en fait, il n'a rien entre les mains. Il est pauvre. Il n'a rien gardé. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que... Ou une collectionneuse, pour reprendre le mot de Romère, vieillissante. Au fond, ce qui est un peu triste, c'est que il y a une richesse folle dans les relations sexuelles qu'on a eues, mais on n'en garde rien. Ça ne fait que passer, et c'est à la fois la limite et la beauté de la chose. C'est œuvre d'art vivante, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une manière de sculpter l'écoulement du temps, de sculpter le présent à des fins de découverte de soi-même et de l'autre. Et là, le simple fait de dire ça, à mon avis, nous éloigne un petit peu de la mentalité dominante qui en ferait un acte de consommation d'une marchandise.
C'est hyper intéressant. D'ailleurs, à la fin, tu finis par un tableau où tu proposes vraiment, comme tu dis, Donc, t'appelles ça vraiment nouvel art érotique, hein, c'est vraiment ton...
Ah oui, j'y vais point par point, c'est-à-dire que je critique, c'est-à-dire il y a une partie critique qui est la critique du script Freud porn, c'est-à-dire la critique de du sexe tel qu'on le pratique aujourd'hui majoritairement. Et puis, en face de cette critique, il y a une proposition.
C'est trop intéressant. En tout cas, merci beaucoup.
Ben, merci.
Ça s'appelle Apprendre à faire l'amour. C'est chez Alary. Je n'ai même pas cité l'éditeur. En tout cas, c'est hyper intéressant de lire ton point de vue de philosophe et de voir aussi les points de vue de d'autres philosophes que tu amènes tout au long du livre. Et effectivement, un pas de côté par rapport au sexe aujourd'hui, c'est pas... Surtout d'un point de vue mec, quoi. C'est pas tous les jours que ça arrive, quoi.
Eh oui. Bon, ben merci.
Merci à toi, en tout cas.